cherche Michael à côté du lac des grenouilles et on le trouve pas. On suit les crottes des brebis. Non. Mais qu'est-ce que c'est ?
J'ai entendu la voyage. Comme j'ai vu personne.
Après, j'ai... Attends, ici t'es monté en voiture.
Avance. Tiens. Chut. C'est bon, stop.
Je suis Estelle. J'habite à la brigue. J'ai des brebis, brigasques, laitières. Et voilà, je suis installé, je suis ici, je suis à la brigue depuis 12 ans, un peu plus de 12 ans.
Armand, vous êtes berger depuis longtemps ?
1986.
Et depuis toujours au col de Tende ?
Toujours au col de Tende.
C'est Céline Giordano et j'élève des brebis brigasques avec mon mari Georges et mes enfants à Casterino. Et Val d'Enfer Sud l'été et au col de Bruisse l'hiver.
Je m'appelle Vierre Michael et du surnom de famille à Tende, c'est Bruges. C'est écrit de partout dans Val des Merveilles. Une des gravures que j'avais fait, c'était Bruges heureux comme un berger. C'est mon surnom, ça veut dire brûle. Surnom de famille, hein. C'est très vieux. Brûle parce que soi-disant mon grand-père. Un jour, il avait mis le cigare là dans la poche, hein, il n'était pas bien éteint. Et ça a mis feu à la chemise. Alors ils ont appelé mon arrière grand-père. Un truc comme ça, quoi. Vraiment, ce qu'on m'a raconté, vraiment, je ne sais pas. Mais Bruges, c'est resté.
Ben oui, j'habite à la brigue, un peu isolé,
bergère retraitée des merveilles.
Non, de tout, des merveilles, de... Berger, il est transhumant, hein, donc on a plusieurs lieux. Mais des merveilles l'été, ouais.
Bergère retraitée de la Roya.
Ouais.
Est-ce qu'on devient bergère ou est-ce qu'on devient bergère ? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne devient pas berger, mais qu'on fait le berger. Donc voilà, je fais la bergère depuis presque 10 ans.
Faire le berger, ça veut dire tenir un rôle ?
Peut-être.
Berger, bergère. Celles-là font l'histoire et les paysages de la Roya depuis des siècles. Certains disent que les gravures des merveilles de la vallée de la fontaine de l'Aube et de l'Enfer sont le fait de gardiens de troupeaux. Là, bien avant nous. Mais le pastoralisme continue de modeler les destins, les chemins et les histoires de la vallée. Alors Odilon Gournay et Elven Sicard, avec l'association Fiume, sont allés leur tendre le micro pour tenter de comprendre un peu ce qu'il se passe, là-haut. Vous entendrez plein de voix et autant de pratiques et de façons de travailler. Des troupeaux laitiers, des troupeaux viands, des brigasques, des pas brigasques, des rouges, du bio, du pas bio et même un peu de chèvre. Des gros troupeaux ou des petits troupeaux. Mais surtout des histoires de vie, des histoires de plantes et des histoires de bergers et de bergères. Et puis, les merveilles infuses. Alors, attendez-vous à tout.
Très lentement, il progresse le long de la paroi de pierre. Il a peur. Non de tomber, bien sûr, mais d'arriver trop tard, car déjà la lumière de la nuit semble se fondre dans un ciel plus pâle, presque rosé. Il n'est plus qu'à quelques secondes du sommet. Un dernier appui, une dernière prise et... brusquement, une pierre se détache sous sa main. C'est la chute. Il dévale la paroi, rebondit sur les pierriers. La mort l'emporte avant que l'aube ne paraisse. Soudain, la lumière a jailli. C'est l'aurore. Comme chaque matin, elle se déploie sur les murailles, éveille les rochers, descend jusqu'au pied du bégot, éclaire les gravures, puis lentement s'arrête sur le corps inerte. Elle y restera tout le jour, laissant dans l'ombre la vallée.
Ça va, toi?
Bonjour.
Bonjour. Une interview.
C'est clair.
Franchement, alors on doit tout recommencer. Ça faisait une heure.
T'as tout
merci.
Cassé.
Merci Aurélien.
À bientôt.
À toutes.
Oui. Et comment je suis devenue bergère, j'ai voyagé. Et dans un de mes voyages, j'ai vu sur une île une femme garder des brebis, une vingtaine de brebis, et je faisais du tricot, du crochet. L'île Taquile, sur le lac Titicaca, en Amérique du Sud. Et voilà, et elle filait la laine, et j'ai dit, je veux faire ça comme métier quand je rentre.
Moi, ça m'a toujours plu, les bêtes. J'étais déjà tout gamin, on allait voir le berger qui était là, dans le col, là. Avec mon père, on allait tous les week-ends, l'été, quand il était en montagne, on allait le voir. Et moi, ça m'a toujours plu, les bêtes. Et après, bon, de toute façon, j'ai commencé à 14, 12 ans, 13 ans à travailler chez un qui a des bêtes à tendre, qui avait des bêtes au village, des vaches. Et jusqu'à 16 ans, l'école était obligatoire. Je suis allé à l'école jusqu'à 16 ans. Après, bon, pour t'installer, il fallait des sous. Et alors, je suis allé travailler chez un maçon pendant 4 ans, jusqu'à 20 ans. 85, je me suis installé. Enfin, 86, là. 85, j'ai arrêté de travailler. En 86...
C'était un projet de vie. On voulait s'installer dans l'agriculture, plutôt dans l'élevage. Et j'ai peur des vaches. Et les chèvres sont trop coquines.
Et donc quand je suis rentrée, je suis allée à l'école des éleveurs, enfin de Carmejane, et je leur ai dit que je voulais m'installer avec des brebis et que je voulais faire travailler la laine. Et ils m'ont dit que non, c'était pas possible, tu pouvais pas travailler la laine, ni enfin il fallait faire la viande ou le lait. Bon, la viande pour moi ça m'intéressait pas, et le lait je me suis dit tu traites les bêtes, tu as une approche d'elles plus que, et puis enfin voilà, je peux faire un peu de traite et travailler la laine. Et donc j'ai fait ma formation, et puis en fait ma formation ça m'a pas plu du tout, c'était pas du tout ce que je recherchais comme je voulais pas apprendre ça. Et du coup j'ai rencontré des gens de la Roya, qui des jeunes qui étaient installés, qui s'installaient, qui étaient en formation avec moi, et qui m'ont dit, mais tu sais, tu prends ce qu'il y a à apprendre à l'école, t'as ton diplôme, et après tu fais comme tu veux.
Les études, je n'ai pas fait, à part, j'étais allé en BEP de plomberie, mais je ne suis même pas allé jusqu'à la fin, parce que ça m'a gonflé. Et après, j'ai travaillé 4 ans là, chez un artisan, maçon. Mais moi, le faire le maçon, ça ne me plaisait pas. Je travaillais parce qu'il fallait travailler. Dans notre vie, nous, on m'a toujours dit que si tu veux manger, il faut travailler. Mais après, voilà. Et alors, comme ça me plaisait les bêtes, je dis, ben oui, je m'achète un troupeau de brebis. Et à l'époque, il ne fallait pas tant de bac et pas de bac. Un bâton et un chien, et tu avais envie de travailler, tu allais et tu travaillais, et voilà. Moi, j'ai appris sur le tas, hein, l'élevage. Bah, les vieux, 4 vieux bergers là que je connaissais, ils m'ont appris, ils me disaient tu fais comme ça et comme ça, et si tu as un peu de tête, tu le fais. Et puis l'année d'après, tu essayes de faire autrement pour essayer d'améliorer, et comme on améliore encore maintenant. Hein.
Après, moi, je peux parler de moi quand je suis arrivé. Mon compagnon m'a décrit mon bégot direct quand je suis monté sur Castellino, parce qu'en fait, quand j'ai découvert la vallée, c'est en montant sur Castellino. Je ne connaissais pas ici. Et. Il m'a dit, tiens, je ne sais pas si vous avez pris la route de Castellino, mon bégot comme ça. Et j'ai vu cette montagne qui m'a tout de suite tapé au cœur d'ailleurs. Et il m'a dit, tu vois, c'était une ancienne montagne sacrée. Ce mot, il est un peu bizarre, mais voilà. Et du coup, voilà. Et puis il m'a dit, on va garder les brebis là-haut et tout ça. Et...
À la fin de l'été, lorsque les bergers redescendirent à Castellino, on s'aperçut vite que l'un d'entre eux manquait. Aussitôt, ses compagnons partirent à sa recherche. Ils connaissaient bien le massif et explorèrent jusqu'à la moindre faille. En vain. Puis ce furent les premières neiges. Quelques semaines plus tard, alors que l'hiver avait déjà envahi la montagne, on vit s'approchant du village un troupeau semblable à celui du disparu. C'était bien ces bêtes. Mais elles étaient conduites par une jeune inconnue que les amis du berger dévisagèrent avec étonnement, tant elle ressemblait à leur compagnon. On l'interrogea longuement, mais la jeune fille ne pouvait que répéter ce récit fantastique. Elle racontait sa mort sur les flancs du Bégot par un matin d'été où elle avait voulu surprendre l'aube. Évidemment, les habitants du village n'en croyaient rien, l'histoire leur paraissait trop extraordinaire. Alors, la jeune fille leur indiqua le lieu précis de sa chute et leur conseilla de s'y rendre le printemps venu. Lorsque les dernières neiges, recouvrant la vallée, commencèrent à fondre, ceux du village montèrent à l'alpage. À peine y était-il arrivé qu'une source jaillit à l'endroit indiqué par la jeune fille. Une source d'où s'écoulait une eau très pure, entourée de fleurs comme aucun d'entre eux n'en avait jamais vu. Jamais elle ne se tarit. Et aujourd'hui encore, les voyageurs peuvent l'apercevoir jaillissant au milieu d'une flore extraordinaire, en un lieu appelé Fontanalba ou Funtanalba, ce qui en tandasque veut dire la source de l'eau.
Et quand je suis rentré en France, eh ben, j'ai atterri dans la Roya avec une asso parce qu'on faisait des nettoyages de rivières. Et on était venu faire une action ici. Et en fait, on a dû faire un couscous et j'ai rencontré Pascal et Gisèle qui nous ont généreusement offert un agneau. Enfin, une brebis pour le couscous. Et du coup, on est allé les rencontrer. Et en fait, eux, ils rentraient d'un voyage de Sardaigne où c'est qu'ils étaient allés valoriser la laine des brebis brigasques. Et donc là, je me suis dit... Et donc, ils trayaient des brebis, ils transhumaient, ils trayaient à la main. Tout ce qu'à l'école, on m'avait dit de ne pas faire, de ne pas traire à la main, de ne pas transhumer. Et voilà, je leur ai demandé si je pouvais rester un peu avec eux. Et puis bah, j'ai fait plus ou moins 5 ans avec eux et essayer de développer l'activité laine, les tapis, de vendre, faire les marchés, essayer de faire parler de la laine brigasque, essayer de me former au niveau de la laine.
Elle a une forme particulière, justement, du coup, la brigasque.
Un nez bombé et des cornes. Okay. Voilà, un nez bien... Qui se voit bien.
Ouais. Née de boxeuse un peu.
Ouais. Ou de brebis préhistoriques. La première fois que je les ai vues, je me suis dit, elles ont vraiment une tête bizarre, ces brebis. Et en fait, maintenant, je les trouve magnifiques.
Et les brigasques, elles sont variées par elles-mêmes, quoi. Donc, il y a plein de variétés de cornes. Les couleurs vont du roux, gris, moucheté. Il y a des noirs dans le troupeau. Même la laine, elle est pas franchement blanche. Il y en a des plus rousses que d'autres, plus laineux que d'autres. Elle a des mamelles bien conformées, faciles à traire. C'est une des grandes propriétés de la brebis brigasque, l'aptitude et la traite manuelle. On dit qu'elle fait pas beaucoup de lait, mais elle en fait longtemps. Elle valorise bien le changement de lieu, donc Nous, on est transhumants, donc quand on, à chaque fois qu'on arrive sur un nouvel endroit, on repart sur un printemps. On a la mise à l'herbe au col de Bruys, c'est le printemps, elles font du lait, on vient de leur enlever l'agneau et tout ça. Après, il commence à faire chaud, elles se lassent, la quantité de lait diminue. Et hop, on arrive à Casterino, deuxième printemps, c'est reparti pour un tour, on explose les records, on fait déborder les chaudrons et... Et voilà, puis après, ben pareil, elles ont fait un peu le tour, on monte à l'enfer. Là, pareil, il y a plein de nouvelles fleurs, nouvelles végétations, il fait plus frais. Voilà, puis l'été passe vite là-haut, donc quand les orages du mois d'août, la température baisse, le lait aussi, tout ça, on redescend à Casterino, il y a un beau petit regain, c'est encore un peu l'été.
Pierre, le berger, m'avait raconté une histoire très ancienne de sorcière. Que les vieux bergers de Tende racontaient autrefois, il y a tant d'années. Les bergers transhumaient l'été pour faire pâturer leurs troupeaux aux merveilles. Ils étaient tous de Tende, ils connaissaient bien cette montagne. Mais une année, arrive là-haut un berger de Saorge avec un beau troupeau de brebis. Ceux de Tende l'ont bien reçu et bien mis en garde. Des mauvais temps orageux, mais aussi du plus dangereux. Il fallait se tenir au plus loin de ce petit lac. Pourquoi ? Ces lieux baptisés la cime du diable, la vallée des sorcières, le vallon de l'enfer, le trou de la tempête. Personne ne savait. Mais les anciens recommandaient tout ça, chaque année d'estivage, aux plus jeunes bergers.
On s'est beaucoup appuyé avec les anciens. On pourrait dire que les anciens que j'ai connus, bergers, tu les déplaçais il y a 10 000 ans, on pourrait dire que c'était les mêmes. Peut-être pas fringués de la même manière, mais c'était les mêmes. Ça, j'en suis sûr. Tout ça, aller courir dans les rochers, même sa vie survivre. Des merdés, quoi.
Des bergers de la vallée de la Roya.
Ouais. Mais peut-être pas que des bergers. Moi, j'ai rencontré des bergers. Mais c'est cette génération-là que... Voilà.
Et qui vous a transmis beaucoup de savoir-faire.
Beaucoup. Et qui correspondait aussi peut-être à notre... Notre élan de... Ouais, voilà. Ça s'est vraiment lié. Ça fait presque comme une étincelle. Même chez moi, ça fait ça. De toute façon, il y en a beaucoup, ils sont partis, ils sont décédés, mais on a eu une liaison presque parentale, quoi. À la longue. On s'est vraiment retrouvés. Pourtant, on était vraiment différents, on pourrait dire. Mais dans le fond, on n'était pas différents.
Bon. Alors, je suis venu berger il y a très longtemps. J'avais 9 ans, avec une brebis. J'ai toujours été passionné. Mes parents ne faisaient pas ça, mais j'aimais voir les troupeaux passer encore d'entendre. Je me rappelle des brebis qui fermaient les brebis d'entendre, donc ça me plaisait. Tous les soirs, j'étais avec des bergers, tout le temps. Après, j'allais encore à l'école. Mes parents ont voulu quand même que j'apprenne un autre métier. Bon, je m'étais mis dans la maçonnerie, mais j'avais toujours des brebis à côté. Et fil en aiguille, j'ai fait un gros troupeau. Je suis arrivé à mes fins comme ça. Au début, je mettais mes brebis en garde, donc je faisais le foin l'été. Je travaillais aussi un peu à la mairie. Et ensuite, bon, le foin, j'y arrivais plus. Et puis, avec la pression du loup, il a fallu de plus en plus garder les brebis. Donc, ma première montagne que j'ai fait seul, c'était les Merveilles, l'enfer, quoi. Le Val d'Enfer.
Le berger saorgien y a cru, mais malin. Au premier coup d'œil, il a vu que cette herbe fertile n'était pas broutée tout autour de ce lac. Sans tenir compte de tous ses conseils dès le premier jour, il y amena paître son troupeau. Le soir, tous autour du feu, les tandasques l'ont encore imploré de ne plus conduire ses bêtes à proximité du lac. Alors le saorgien pensa qu'ils étaient jaloux de son troupeau et qu'il voulait garder ce beau pâturage pour eux. Toute la semaine, il envoya encore ses brebis autour de ce lac. Tout semblait aller pour le mieux. Mais un jour, le berger s'éloigna de son troupeau pour cueillir la camomille dans les rochers et revint alors au crépuscule. Il dévala dans un grand éboulis, et là, il entendit bêler ses brebis comme épouvantées. Un malheur serait-il arrivé ?
Un malheur sera arrivé.
La Vallée des Merveilles peut être à la fois... Même des fois, c'est un beau qui, des fois, tu ne sais plus quoi en faire de ce beau. Et des fois, elle est très oppressante. Ça peut être oppressant. Son ombre, ça résonne, les nuages qui s'enfilent de partout. Bon, voilà, c'est... Ça peut te mettre dans un état un peu bizarre, des fois. Tu vois, il y a le diable, le Forcat. Forcat, c'est la fourche du diable. Il y a pas mal de noms. Moi, nous, le petit quartier des bergers, ça s'appelle l'Inferno.
L'enfer.
L'enfer. Merveille, c'est plutôt dans le sens du merveilleux. Il y a un peu, tu vois, merveilleux. De toute façon, ils ont même soi-disant envoyé une sorcière là-bas qui jetait des sorts. Elle a entendu parler, peut-être. Non ? Ah ouais, il y a des belles légendes ici.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Ah ben, sur la... Là, je vais la dire moi, mais peut-être qu'il y a mieux à dire, hein, je ne sais pas. Il faut se renseigner. Ben, il y a une sorcière à l'époque de... C'est un conte, je crois qu'on avait un à attendre. Et qui partait aux croisades, et que, quand il n'était pas là, elle jetait des sorts aux villageois. Bon, des histoires de village, je ne sais pas, je n'étais pas là à cette époque. Et chaque fois qu'il revenait, tout le monde se plaignait. Et puis un jour, il lui a dit, si tu continues, ben, je t'envoie avec tes chèvres, elle avait des chèvres. Tu iras là-haut toute seule et tu te débrouilleras. C'était une punition, en fait. Et bien sûr, elle continue, il envoie là-haut. Mais malheureusement, là-haut, elle continue à envoyer des sorts de là-haut. La masque, ben, la masque, ça veut dire sorcier en italien. Ou en italien, ou en ancien italien, je ne sais plus. Et pour ça qu'il y a la Valmasque, tous ces noms comme ça aussi là-haut. T'as entendu parler du vallon de la Valmasque.
La Valmasque, c'est la vallée de la sorcière.
Voilà. Mais ce qu'on appelle la vallée des merveilles, avant, les bergers, avant, l'appelaient la masque aussi. C'était la même. Voilà. Et puis, elle a continué là-haut. Et ils ont envoyé peut-être une fois des... Je ne sais plus exactement mes chronos. Mais il est monté plusieurs fois des moines, peut-être même des militaires, quoi, je ne sais pas. Et chaque fois, elle leur a jeté un sort. Alors, par exemple, une fois... Enfin, moi, comme ça, je peux vous dire mon... l'effet que ça me faisait quand je voyais justement le paysage, l'ambiance minérale et des mélèzes, parce qu'à là-haut il y a des mélèzes qui ont des très anciens avec des formes pareilles que chaque mélèze a envie de leur parler des fois, voilà. Et en fait, je sais plus si c'est des moines ou d'autres qui ont été transformés en mélèzes, en corbeaux, voilà les...
Elle, tu vois, c'est la brebis qui connaît très très bien son nom parce que tous les bergers avec qui elle est passée, ils la connaissent. Ben, Georges et Céline, Alan, elle est passée surtout avec ses deux troupeaux. Et c'est un nom que tu dis souvent. Parce qu'elle est, c'est la plus vieille, elle a 12 ans, elle était chez Pascal et Gisèle. Bon, ben là.
Et alors c'est une meneuse.
Attends, là, il faut que. Hey ! Viens ici, là ! Hé ! Vous allez où, là ? Viens là, viens. C'est une meneuse. Ouais, c'est la plus vieille. Et puis, elle connaît les endroits par cœur. Elle a été partout, cette brebis. Elle connaît tout. Tu la perds dans la montagne, elle sait comment rentrer chez elle. Si elle a fait le chemin une fois à pied, elle sait comment rentrer chez elle.
Comment elle s'appelle ?
L'avion.
L'avion.
Ouais. À tous les bergers ou qui l'ont gardé, ils la connaissent.
Nous, on a même dit qu'il y avait un peu un...
Non, un secret ça, de l'enfer.
Secret de l'enfer.
C'est Thibaut qui m'a dit qu'il y avait un secret de l'enfer. Pourquoi le fromage de l'enfer est-il si...
Alors Thibaut, bon. il pense qu'à l'enfer, c'est le méum qui donne le goût au fromage. Et je veux bien croire que le méum donne un goût particulier. Et je rajouterai aussi l'égopode, c'est un genre de céleri là, qui est très odorant, et vraiment quand on traite des fois on sent cette odeur de céleri, quoi. Après D'un jour à l'autre, même à l'enfer, elles ne mangent pas la même chose. Et c'est très difficile. Alors, il y a des fois quand on traie, mais c'est ponctuel sur une brebis ou sur plusieurs brebis. Mais ce n'est pas le lait que je travaille en fromagerie quoi, qui me réfère à une plante. Mais quand on traie, et souvent, c'est aussi les framboises. Quand les framboises sont mûres, là, qu'on va garder à l'avalanche, souvent, tu as quelques brebis. Le soir, ça sent vraiment la framboise. Et j'ai... C'est un gros mystère après sur le goût du fromage parce que j'ai essayé moi de garder des tomes que je trouvais que le lait sentait vraiment la framboise et j'ai jamais réussi à la retrouver à la dégustation quoi. Enfin, c'est... Après les fromages ils se perdent et il faut imaginer les brebis c'est comme un grand buffet. Imaginons nous un buffet à volonté ou pas tout à fait à volonté quoi, avec plein de choses, des choses sucrées, des choses salées, des choses où la saison c'est la bonne saison et des choses qui sont pas trop mûres, des fruits qui sont un peu verts. Donc on va manger ce qui nous attire le plus, ce sera pas forcément la même chose au même moment de la journée déjà. Et ensuite d'un jour à l'autre, les carottes elles sont pas très belles, je vais d'abord manger les raisins, ils sont bien mûrs, c'est pile poil la saison. Et puis je repasse, et puis bon, j'ai déjà mangé les raisins mûrs, j'ai mangé ça. Oh, finalement, ces carottes elles sont pas si mal, je vais en manger un petit peu quoi. Et comme ça, mais à échelle d'une prairie immense et avec 200 individus qui ont leur goût et leurs envies du moment quoi. Donc c'est fou quoi.
Il n'y a pas une plante de prédilection?
Chez les brebis. Alors on a un gros problème à l'enfer justement, c'est la verâtre, c'est un truc de fou. Donc la verâtre, c'est un peu le clone de la gentiane, et en fait elle se saoule, elle se jette là-dessus. D'abord ça les remplit beaucoup, ça les remplit très vite parce que c'est des grosses feuilles, elles se jettent dessus goulûment. Et puis après, elles chôment. Bon, on peut penser que c'est parce qu'elles ont le ventre plein, mais pas seulement. Elles chôment d'une manière différente, je trouve. Elles paraissent vraiment stone, et puis elles ont des comportements un peu irrationnels. Et puis c'est surtout qu'elles se mettent à vomir, quoi. Certaines qui en abusent, elles ont une mousse blanche qui sort de la bouche. Et puis après, la prochaine étape, c'est qu'elles vomissent.
Non, les chèvres, il faut voir les chèvres. En alpage, là-haut, il y a la verâtre. Et tu les vois le soir, c'est une plante, elle les mange. Et après, dans la nuit, tu entends les chèvres qui font... Et puis, elles vomissent. Elles ont la tête qui part dans tous les sens et elles vomissent. Et en fait, elles font ça tous les soirs. Et elles se jettent sur la verâtre. Elles savent que c'est pas bon pour elles. Enfin, que c'est pas... Elles vont vomir et que ça va... Donc, je sais pas quel effet ça leur fait.
De loin, il vit ses bêtes disparaître dans le lac. Plus il s'approchait du lac et plus ses bêtes disparaissaient dans les fonds, aspirées par une force mystérieuse. Le berger crie, bastonne cette eau démontée enragée. Le chien aboie, essayant de les arrêter, mais rien n'y fait. Alors, le berger se jette à l'eau. Son chien le suit. Comme son troupeau, ils disparaissent. Aussi dans les profondeurs de ce lac ensorcelé. De loin, les autres bergers épouvantés ne peuvent être que les témoins de cette mystérieuse disparition.
Soins des brebis, moi j'essaye au minimum d'utiliser des antibios. Bah, quand t'as vraiment pas le choix et que c'est vraiment gros, t'as pas le choix, tu fais une piqûre d'antibios. Mais sinon, je suis beaucoup à l'argile, aux huiles essentielles, le titri ou la lavande en majorité, de l'élixir du suédois aussi. Enfin, donc l'élixir du suédois, c'est de l'alcool avec plusieurs plantes dedans. Et qui est faite ici, enfin qui est faite avec une transformatrice d'ici, Anne-Claude.
D'accord.
Donc voilà, j'achète les produits, je mets dans l'argile, je suivant ce qu'il y a, c'est soit du titri, soit titri lavande, enfin. Ouais, et après les plantes, ben de toute façon elles-mêmes elles se purgent ou je fais une purge naturelle, mais sinon elles, le fait de manger dehors, en fait de garder des brebis en extérieur et de les garder quoi, qu'elles soient pas en parc enfermées, elles peuvent choisir leur nourriture et elles s'autogèrent. Que si tu les apprends pas à manger dehors ou si elles apprennent pas avec leur mère ou avec tout ça, comment elles vont aller dehors, elles vont manger que certaines plantes. Et en fait, que là, d'elles-mêmes, quand elles ont besoin de manger du plantain, elles vont manger du plantain. Quand elles ont besoin de manger un peu de lavande au passage, quand tu montes, bah, elles vont te manger un peu de lavande, elles mangent du thym. D'elles-mêmes, elles mangent de l'armoise, de l'absinthe, genre l'absinthe, quoi, tu vois. Enfin, d'elles-mêmes, elles sont dans la nature et elles mangent un peu de tout. Et elles montrent à leur petit aussi qu'est-ce qu'il faut manger. Enfin, qu'est-ce que... Le petit regarde qu'est-ce qu'elle mange ou vice-versa. Ça s'apprend... Enfin, je sais pas comment...
Et genre, elles s'auto-soignent, quoi. Elles ont la...
Et bah, y a une partie qui fait que... Après, toi, tu dois forcément intervenir des fois parce qu'il y a une blessure ou il y a... Mais je pense que c'est... Automatiquement, elles mangent... C'est comme nous, quand on va se faire une infusion plusieurs fois d'affilée, de d'isope, parce que tu sens que tu es malade, que tu as une genre de bronchite et tout, bah tu vas te faire une petite... Il ne faut pas en faire beaucoup, mais tu vois, tu vas prendre du thym, tu vas essayer de te prendre des plantes pour... On ne va pas dire que c'est ça qui va totalement te soigner, mais en tout cas, en préventif, c'est super. Enfin, c'est... Enfin, voilà, elle s'autogère, entre guillemets. C'est comme... Enfin, ouais, voilà, c'est comme... Je sais pas. C'est naturel, c'est la nature. Elles savent ce qui est bon pour elles.
Et c'est instinctif pour elles et pour toi.
Tant que tu leur gardes leur instinct, ouais. Si tu les tiens pas enfermées, alors qu'elles sont dépendantes complètement de toi pour leur apporter à manger, ça après c'est chacun travaille comme il veut, hein, mais voilà, là c'est les garder entre guillemets comme si elles étaient en semi-liberté. Des fois j'interviens avec le chien, mais je vais envoyer le chien d'une façon que c'est comme si les brebis, c'est naturel, enfin que c'est pas le chien qui les a fait tourner, c'est tac, ça fait un mouvement de troupeau qui, hop, bah tiens là on va tourner. Et elles ont, tu vois, elles sont pas stressées, t'es pas là à crier tout le temps.
Est-ce que c'est conscient, mystère, la vérate, on dit que ça les vermifuges. Donc des fois, quand j'en ai marre de les voir se jeter dessus, je me dis ça, je dis, allez, peut-être qu'elles se vermifugent, si elles le font, ça ne doit pas être si mauvais. Après, ici, on a beaucoup de sol le long de la rivière, et on dit que ça contient de l'aspirine et que ça peut... Honnêtement, il y a plein de mystères, et puis elles ne nous disent pas quand même. Je pense, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui les appétissent à un moment de la journée ou à un certain stade de végétation. Et voilà. Et, ouais. Après, je trouve qu'on est peu formé en botanique. C'est dommage parce que on a noté aussi il y a des plantes qui ne font pas faire de lait, mais par contre, on a un rendement de fromage plus important. Elles mangent sec, ça ferait plutôt faire du gras. Et en fait, y a moins de lait, mais le fromage est tout aussi conséquent pour la même quantité de lait, imaginons.
Ils espéraient retrouver un jour le berger saorgien pour lui donner une bénédiction. Le pauvre. Il n'est jamais réapparu. L'automne arrivait. La première neige tombait sur les cimes. Alors les bergers tandasques ont quitté les merveilles, transhumant plus bas dans les champs. Des années sont passées. À la mémoire du berger saorgien, disparu, les témoins de ce drame ont baptisé ce lac ensorcelé en lui donnant le nom de Saorgino, le lac saorgien.
Vous connaissez pas, vous, le mythe du berger, hein? Un soir, je cale et je passe le pont du Saorgino. Et il y avait un truc qui buvait là-bas dans le vallon. Il faisait sombre, tu sais. Puis j'ai vu que c'était un homme. Du moins, je croyais. J'ai dit bonjour. Pas répondu ni rien. J'entendais que ça buvait. Passe sur le pont. Et puis je me retourne quand même. Plus rien. Et puis d'un coup, dans la pénombre, je vois sur ce... Il y a un gros bloc, un câlin. Il était sur le bloc, là, dessus les deux lacets. Et puis les chiens, ils... Les chiens, ils ne s'enlevaient pas de mes pattes. D'habitude, ils voyaient une personne, ils aboyaient. Là, ils aboyaient pas. Alors j'ai fait pchit, comme ça pour qu'ils aillent vers la personne en aboyant. Alors ils sont partis de l'autre côté. J'ai dit bon, étrange. J'avance. Et je me le revois là-bas dans le pré. Et là, j'y voyais presque plus parce que il s'enlèvera bien du milieu celui-là. Et je rentre dans la baraque, les chiens ils sortent sur le lit, qu'ils le faisaient jamais, j'arrivais plus à les faire sortir, ces chiens. J'ai planté là devant la maison et puis il faisait plus que couiner. Et il faisait malheureux là. Bon, il me prépare à manger, tout ça. Il me manquait du sel. Je vais pour aller chez Pascal. Je me tourne, la lumière dans la maison, j'avais qu'une bougie. Je remonte, la bougie éteinte, ni rien. Je redescends, de nouveau la lumière dans la maison. Après, dans la nuit, je me couche et j'avais un petit gaz parce que le reste, je me faisais au feu. Mais j'avais juste un petit gaz pour ne pas allumer le feu le matin pour faire le café. Ce truc, il s'ouvre. Bientôt, je m'intoxique. Les chiens plantés sous le lit, ils ne voulaient pas sortir. Les brebis, qu'ils n'arrêtaient pas de bouger. Eh bien, c'était bien le sorcier. Moi, on m'avait toujours dit qu'il faisait des trucs comme ça. Et je suis sûr que c'est ça.
C'était un documentaire écrit et réalisé par Odilon Gournay et Elven Sicard, avec l'association Fiume, avec Armand Giordano, Céline Giordano, Estelle Clément, Gisèle Bonneville, Michael Vial. Merci à Jean-Pierre Apertot pour la légende du lac saorgien que nous avons retrouvé grâce à son ouvrage Camin de Memoria, Institut d'études occitanes 2015. Pour la légende de la source de Fontanalbe, c'est un extrait lu par Michel Créton sur les ondes de France Culture le 5 décembre 1981. Musique, Lobo Loco, Hiking Through Waves et Kirko Samayo, Between the Lines et Désolation. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce documentaire, de près ou de loin.